Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François s'apprête à s'envoler pour la Terre Sainte. 3 jours de pèlerinage à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Toute la première partie de cette édition sera consacrée à ce voyage apostolique. Vous entendrez notamment Mgr Emmanuel, métropolite de France, et Mgr Laham, vicaire patriarcal latin pour la Jordanie. Nous nous attarderons ensuite sur les conclusions du comité des Nations Unies contre la torture, suite au rapport présenté par le Saint-Siège. Réaction dans quelques instants de l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève. Et puis à la fin de ce magazine, gros plan sur la 4e édition de la journée des mamans d'une personne malade ou handicapée, avec un témoignage très émouvant. Bienvenue dans ce magazine. Dans quelques heures, le pape François quittera le Vatican pour rejoindre la Jordanie, première étape de son voyage apostolique en Terre Sainte. À la veille de son départ, le Saint-Père s'est rendu ce vendredi matin en la basilique Sainte-Marie-Majeure, une visite privée pour prier et confier son pèlerinage en Terre Sainte à la Vierge. Après un moment de recueillement, a précisé le père Fedele Colombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le Saint-Père a offert un bouquet de roses à la Vierge. Durant ces 3 jours, le pape se rendra à Amman, Bethléem et Jérusalem à la rencontre de nombreuses réalités de Terre Sainte. Juste avant son arrivée, notre envoyé spécial à Jérusalem, Bernard de Cotigny, nous livre ses premières impressions.
Si proche et si lointain, ces deux mots m'occupent l'esprit alors que le pape est sur le point d'arriver ici en Terre Sainte. Être chrétien et pour la première fois entrer à Jérusalem, pénétrer dans ces lieux saints, c'est renouer d'un coup de manière vertigineuse avec l'histoire de l'humanité, mais aussi votre histoire personnelle. Tout vous parle de votre foi, ancrée là, devant vous, dans la pierre, vivante sous les concrétions, dans les lueurs de cierges qui brûlent sans fin, illuminant des obscurités saturées d'encens, aussi suffocantes qu'enivrantes. Si proches et si lointaines, les communautés chrétiennes gardiennes de cet héritage religieux, jalouses de leurs prérogatives, où le silence devrait régner en maître comme au Saint-Sépulcre ou dans la basilique de la Nativité à Bethléem, on se bouscule bruyamment, parfois brutalement, pour un impossible recueillement. Si proches et si lointains, ces pèlerins remontant dans la ferveur la Via Dolorosa, sous le regard désabusé des marchands de souvenirs musulmans, dans des odeurs de falafel frit à même la rue. Si proche et si lointain, ces juifs ultra-orthodoxes, spalmodiant à minuit dans de grands mouvements du corps face au mur occidental, ou mur des lamentations, quelques mètres seulement sous l'esplanade des mosquées, où pour la prière de ce vendredi matin, des milliers de musulmans se sont rassemblés. Si proche et si lointain, palestiniens et israéliens, séparés par cet interminable et terrible mur de sécurité, n'ont toujours pas réussi à s'entendre, isolés, au mieux dans leur peur, au pire dans leur misère, entre enclaves et colonies dévorantes. Et que dire si vous vous éloignez encore un peu plus de Jérusalem, pour vous retrouver à quelques jets de pierre de Gaza sans pouvoir vous y rendre? A-t-on jamais, il est vrai, visité une prison sans de multiples autorisations? Tout vous parle du passé et de Dieu, le présent vous interpelle, vous questionne. Que de cœur et d'esprit à ouvrir encore! Mais vous rencontrez un tas d'hommes et de femmes formidables qui y consacrent leur temps et leur vie. C'est aussi grâce à eux que cette terre sans nul autre pareil peut aussi se faire douce et gentille. C'est aussi pour eux que le pape François vient jusqu'ici, car œuvrer pour la paix et la fraternité y prend tout son sens. De Jérusalem, Bernard de Cotigny pour Radio Vatican.
Le pape s'apprête donc à retrouver le patriarche de Constantinople, Bartholomée, pour commémorer le 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem entre Paul VI et Athénagoras. Une rencontre historique qui, selon le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, a donné une impulsion fondamentale et déterminante sur le chemin de l'œcuménisme. 50 ans après cette accolade historique, comment définir les relations entre catholiques et orthodoxes? Cette rencontre entre le pape François et Bartholomée en Terre Sainte va pourrait-elle ouvrir de nouveaux horizons? Bernard de Cotigny a interrogé Mgr Emmanuel, métropolite de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et directeur du bureau de l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne. Il est pour le monde orthodoxe l'un des organisateurs de ce pèlerinage auquel, bien sûr, il participe.
Je ne peux pas prévoir ce qui peut se passer, mais de toute façon, une rencontre, c'est un pas en avant. Je pense que dans cette période où nous vivons, nous avons déjà franchi un pas. Nous ne sommes plus considérés comme des églises schismatiques, mais des églises sœurs. En travaillant ensemble, le dialogue et aussi le contact qui ont été établis, les visites pour le fête patronal de Rome et de Constantinople qui ont continué depuis tant d'années, ont donné quand même des fruits. Et alors, je pense que cette rencontre, cette nouvelle rencontre de Jérusalem va donner l'élan. Et je pense que le Saint-Esprit est là pour nous guider et pour nous guider tous d'aller encore en avant pour retrouver la pleine communion entre nos deux églises.
Est-ce que la déclaration commune qui émanera de cette rencontre pourrait réserver des surprises ?
Je ne connais pas en détail le contenu de la déclaration commune, évidemment. Mais je pense que cette déclaration va porter sur des questions d'actualité, certainement. Et c'est un signe concret qui va sortir de la rencontre de Jérusalem. Je crois qu'il ne faudrait pas s'attendre à des événements spectaculaires. Ça serait bien si on pouvait, suite à cette rencontre, pouvoir communier au même calice. C'est notre désir et c'est notre but, puisque le but du dialogue, c'est ça. Mais je crois qu'il faut être réaliste et il faut surtout être encouragé dans ce travail concret, dans ce pas que nous faisons vers l'unité.
Alors il reste bien sûr cette grande question de la primauté, une question délicate au niveau du dialogue théologique.
Oui, bien sûr. C'est la question que nous étudions d'ailleurs. Comment la primauté a été vue au premier millénaire? Après les schismes, évidemment, il y avait des difficultés, ça c'est sûr. Il y a tout un travail qui est fait et il faut encourager ce travail théologique. Les théologiens qui travaillent, les évêques, les laïcs, les prêtres qui travaillent dans ce domaine ne perdent pas certainement leur temps, mais c'est un travail utile et nécessaire pour arriver à des pas concrets. Donc je crois que la primauté, c'est une question. Il y en a aussi d'autres questions qui doivent être également traitées dans le cadre de notre dialogue.
Cette question de la primauté, est-ce qu'elle pourrait un jour, peut-être qu'elle l'est déjà par certaines personnes, être considérée non plus comme une pierre d'achoppement, mais comme une opportunité entre les deux églises?
La question de la primauté, c'est l'interprétation de la primauté en tant que telle. On n'a pas le temps d'approfondir et d'entrer dans le détail. Mais évidemment, c'est l'interprétation que nous donnons à la primauté qui peut aussi nous donner la solution dans ce domaine. Ce n'est pas que nous voulons mettre de côté la question de la primauté comme elle était vécue au premier millénaire où il y avait la pentarchie, donc où Rome avait la première place. Ça, personne nie le fait. Mais c'est l'interprétation qui a été donnée par la suite qui a posé des problèmes pour l'Église orthodoxe. Donc il faudrait aussi voir de quelle façon cette primauté est vécue et de quelle façon cette primauté est appliquée dans l'Église. Je crois que le pape François a, dès le début de son pontificat, a donné déjà des signes. Lui-même, il s'appelle l'évêque de Rome, il a voulu aussi donner un rôle plus important à la synodalité. Donc je crois que ceux-ci sont des signes encourageants pour le dialogue et pour nous dire que nous avons quelqu'un qui nous soutient dans cette perspective.
Mgr Emmanuel, métropolite de France, interrogé par Bernard de Cotigny, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Le Saint-Père est donc attendu ce samedi à Amman en Jordanie, première étape de ce deuxième voyage apostolique à l'étranger. Il rencontrera le roi Abdallah II de Jordanie et son épouse, la reine Rania au palais royal, puis de jeunes handicapés ainsi que des réfugiés dans l'église latine de Béthanie sur les rives du Jourdain. Autre moment fort de cette première journée, la messe célébrée par le pape au stade international d'Amman, en présence notamment de réfugiés palestiniens, syriens et irakiens. Sur place, l'heure est au dernier préparatif, comme nous l'explique Mgr Maroun Laham, vicaire patriarcal pour la Jordanie. Il s'attarde également sur le sens de cette visite.
Bon, les préparations en général vont bon train, et ça fait des mois qu'on y travaille. Je pense qu'il y a 3 charters qui vont venir du Liban, il y a des centaines qui vont venir de l'Irak. De la Syrie, je ne sais pas trop, parce que la Syrie est encore dans un état lamentable. Il y aura des Égyptiens, il y aura des Irakiens qui habitent en Jordanie. Évidemment, il y aura beaucoup de Jordaniens, certainement des milliers de chrétiens de Jordanie, mais aussi des musulmans qui ont demandé des billets d'entrée. Mais je pense que ce sera un joli panorama.
Dans un Proche-Orient où les peuples arabes sont plongés dans de grandes souffrances à l'heure actuelle, quel sens donner à la visite du pape François ?
Vous savez, chaque fois que le pape visite un pays, visite une église dans un pays, le premier but, c'est de confirmer la foi des chrétiens de ce pays. Or, vous savez, quand on est minoritaire, on a besoin de temps en temps d'un appui spirituel et moral. Et la visite du pape va nous donner une bouchée d'air fraîche et un encouragement à continuer à vivre malgré les circonstances dans lesquelles vivent la plupart des pays arabes, et dont Dieu, enfin le Seigneur, par une grâce particulière, a encore préservé la Jordanie. Donc nous prions pour que la paix et la sécurité continuent à régner en Jordanie, mais nous prions aussi fort pour que la paix et la sécurité reviennent en Syrie, en Irak, en Égypte et partout dans le monde.
Mgr Laham, interrogé par Valérie Ferron, correspondante à Jérusalem-Est. Le Comité des Nations Unies contre la torture a rendu ce vendredi ses conclusions concernant le rapport présenté par le Saint-Siège en début de mois. Dans un communiqué, la mission permanente du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève salue l'accent mis dans ce texte sur les efforts fournis par le Saint-Siège pour se conformer à la Convention en menant des réformes pour prévenir tout abus sexuel et pour faciliter les soins et la guérison des victimes d'abus. En revanche, certaines observations du Comité ne satisfont pas complètement Mgr Silvio Tomasi. Selon l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève, il semble qu'il y ait un a priori implicite fondamental dans toutes les observations qui considèrent que n'importe quel abus sexuel équivaut à un acte de torture comme défini par la Convention. On l'écoute.
Les conclusions du comité présentent des critiques, l'activité, la gestion des crimes d'abus sexuels contre mineurs indiquent comme les activités des personnes liées au service de l'Église ont violé la confiance que la population, que les personnes avaient mise en elles. Mais en même temps, je dirais que le comité, cette fois, aujourd'hui, a reconnu l'énorme effort qui ont été faits pour punir les personnes qui ont commis des crimes contre les enfants et prévenir que ce type de crimes puissent revenir. L'activité du Saint-Siège et de l'Église en général a été concrète, pas simplement des recours à la compensation financière, mais aussi des changements de lois, de directives, d'une mentalité qui maintenant veut transparence et assurer que la confiance que la communauté a dans les personnes d'Église soit vraiment un point de communion et non de soupçon.
Donc des conclusions plus objectives, plus professionnelles, moins idéologiques. Est-ce qu'il y a quand même des points sur lesquels il faut encore discuter?
Dans les observations conclusives, il y a aussi des idées, des conseils qui ne sont pas trop clairs. Il y a aussi un point sur lequel il faudra réfléchir un peu plus. Il n'est pas acceptable que tout comportement d'abus sexuel soit identifié comme torture. Le Saint-Siège condamne comme un crime sérieux et comme une violation inacceptable de la dignité humaine tout abus sexuel contre les mineurs. Mais en même temps, il faut respecter la définition de la Convention contre la torture qui est très spécifique.
Pour conclure, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer où en est maintenant le Saint-Siège avec ce comité et dans quel esprit il faut aller de l'avant?
Je dirais que le rapport de la Commission de la Convention contre la torture est un rapport plus professionnel, plus objectif et qu'il faudra répondre d'une manière normale aux questions qu'ils ont posées et continuer le dialogue de manière que les personnes qui sont victimes des actes de torture ou d'autres crimes puissent être compensées, être réintégrées surtout dans la société et recommencer leur vie d'une manière digne et constructive.
Monseigneur Silvio Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève, répondait aux questions de Marie Duhamel. Direction à présent la France, où se tient actuellement la 4e édition de la journée des mamans d'une personne malade ou handicapée. Des rencontres organisées chaque année par l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, dans plusieurs villes de France. Après la province, c'est Paris qui accueille ce samedi l'initiative. L'objectif est d'offrir un lieu d'échange et de détente à ces mamans souvent seules face aux difficultés. Véronique Godin est la maman de 3 enfants. La petite dernière, Amélie, a une maladie orpheline. Elle avait entendu parler de cette initiative dans sa paroisse. Au début, elle ne voulait pas y participer, mais elle s'est finalement décidée il y a 3 ans. Aujourd'hui, pas question pour elle de manquer ce rendez-vous.
Depuis 3 ans, cette journée-là, elle est fixée en début d'année, en septembre. Je la bloque sur mon agenda. C'est un bol d'air et je m'autorise à prendre du temps pour moi. C'est favorable aussi à la famille, à l'équilibre familial après. C'est vraiment un moment important où on se pose, où on se ressource. On peut pleurer aussi, ça fait du bien voilà, de se lâcher. Hein. Vraiment, c'est le terme que j'utiliserais. Puis on se retrouve entre mamans. C'est pas du tout féministe, hein. C'est vraiment, on se comprend et je pense que c'est un besoin, vraiment.
Comment votre foi vous aide dans votre vie de tous les jours?
C'est indispensable. Enfin, la foi est indispensable. J'ai besoin de me retrouver avec Dieu dans la prière, même si j'arrive pas à le faire tous les jours. Hein, voilà. C'est un moment fort, une relation aussi que j'accorde avec Dieu. Même si ça dure que 5 ou 10 minutes, ben voilà, c'est important de se poser n'importe où, hein, dans la rue, dans le métro. Moi, ça m'arrive souvent de me poser comme ça et de penser à Dieu.
Est-ce que vous pensez que des journées comme ça qui sont organisées sont vraiment indispensables pour combler un manque qui n'est pas assuré par la société?
C'est indispensable de créer ces moments de rencontre où on arrive justement à mieux se connaître et à partager pareil des moments forts. On a en fait cette chance d'avoir un enfant handicapé. Je pense que ce n'est pas du tout prétentieux, hein, ce que je vais dire. Mais je pense qu'on voit la réalité des choses, hein, plus que qui que ce soit. Je pense qu'on va vraiment au fond des choses et on ne se laisse pas ennuyer par des détails, des choses futiles, inutiles. On est vraiment en vérité et c'est ça qui nous fait tenir, je pense. Et notre enfant handicapé nous fait découvrir des choses merveilleuses qu'on n'aurait pas perçues si on n'avait pas eu cet enfant. Même vis-à-vis de la fratrie, moi, mes 2 aînés sont vraiment superbes avec Amélie. Il y a une connivence qui s'installe, bon, déjà parce qu'ils sont frères et sœurs, mais en plus du fait de son handicap. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui est là et je trouve que c'est une chance pour mes enfants aussi par rapport au monde qui nous entoure et avec toute cette indifférence qui existe.
Et comment vous voyez un petit peu l'avant participation à ces journées et l'après?
Donc c'est vrai que j'avais rencontré des mamans à la paroisse ou dans la rue. J'avais du mal à me livrer parce que je croisais vraiment, donc on n'avait pas le temps d'approfondir là, nos relations. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut attendre, il faut vraiment être prête pour participer à ce genre de journée. Ça va chercher au fond de nous. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent. Hein. Moi, je sais qu'après des journées comme ça, revenir dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué, mais ça fait un bien fou. Moi, j'attends beaucoup de ces journées, des témoignages du matin qui sont faits par différentes personnes. Et je trouve que c'est voilà, important d'entendre ces témoignages. Ça nous fait rebondir, ça nous fait repartir, ça nous regonfle, ça nous rebooste. Et puis quand ça va moins bien dans l'année, eh ben, on repense à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a entendu. Ça aide pas toujours, hein, mais quand même. Je pense que c'est un moyen de pouvoir repartir et de rebondir. Et moi, ça m'est indispensable maintenant.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie.